France Culture.
À volo, de Joris Carl Huysmans.
Dame, ça dépend des goûts, dit le garçon. Moi, à la place de monsieur, je demanderai du roquefort. Ah, eh bien, donnez-moi un roquefort. Et monsieur Jean Follentin, assis devant une table encombrée d'assiettes où se figeaient des rogatons et des bouteilles vides dont le cul estampillait d'un cachet bleu la nappe, fit la moue, ne doutant pas qu'il allait manger un désolant fromage. Son attente ne fut nullement déçue. Le garçon apporta une sorte de dentelle blanche marbrée d'indigo, évidemment découpé dans un pain de savon de Marseille. Monsieur Follentin chipota ce fromage, plia sa serviette, se leva, et son dos fut salué par le garçon qui ferma la porte. Une fois dehors, monsieur Follentin ouvrit son parapluie et pressa le pas. Aux lames aiguës du froid vous rasant les oreilles et le nez avaient succédé les fines lanières d'une pluie battante. L'hiver glacial et dur qui sévissait depuis 3 jours sur Paris se détendait, et les neiges amélies coulaient en clapotant sous un ciel gonflé, comme noyé d'eau. Monsieur Follentin galopait maintenant, songeant au feu qu'il avait allumé chez lui, avant que d'aller se repaître dans son restaurant. La journée avait été mauvaise. Depuis le matin, il broyait du noir. Le chef du bureau où il était commis, depuis 20 ans, lui avait, sans politesse, reproché son arrivée plus tardive que de coutume. Monsieur Follentin s'était rebiffé et, tirant son oignon, « 11 heures juste », avait-il dit, d'un ton sec. Le chef avait à son tour extrait de sa poche un puissant remontoir. « 11:20 », avait-il riposté, « je vais comme à la bourse ». Et, d'un air méprisant, il avait consenti à excuser son employé en s'apitoyant sur l'antique horlogerie qu'il exhibait. Monsieur Follentin vit dans cette ironique manière de le disculper une allusion à sa pauvreté, et il répliqua vivement à son supérieur qui, n'acceptant plus alors les écarts séniles d'une montre, se redressa et, dans des termes comminatoires, reprocha de nouveau à monsieur Follentin d'être inexact. La séance, mal commencée, avait continué d'être insupportable. Il avait fallu, sous un jour louche salissant le papier, copier d'interminables lettres, tracer de volumineux tableaux et écouter en même temps les bavardages du collègue, un petit vieux qui, les mains dans les poches, s'écoutait parler. Enfin, la journée s'était terminée et, sous le ciel bas, au milieu des rafales, monsieur Follentin avait dû piétiner dans des parfaits de fange, dans des sorbets de neige pour atteindre son logis et son restaurant, et voilà que pour comble, le dîner était exécrable et que le vin sentait l'encre. Les pieds gelés, comprimés dans des bottines racornies par l'ondée et par les flaques, le crâne chauffé à blanc par le bec de gaz qui sifflait au-dessus de sa tête, monsieur Follentin avait à peine mangé, et maintenant la guigne ne le lâchait point. Son feu hésitait, sa lampe charbonnait, son tabac était humide et s'éteignait, mouillant le papier à cigarette de jus jaune. Un grand découragement le poigna. Le vide de sa vie murée lui apparut. Monsieur Follentin, penché en avant sur son fauteuil, le front sur le rebord de la cheminée, se mit à parcourir le chemin de croix de ses 40 ans, s'arrêtant, désespéré, à chaque station. Jean Follentin était né dans de désastreuses conditions. Son père décéda très jeune et la boutique de papeterie qu'il exploitait rue du Four fut vendue pour liquider les dettes nécessitées par la maladie. La mère et l'enfant se trouvèrent sur le pavé. Madame Follentin se plaça chez les autres et devint demoiselle de magasin, puis caissière dans une lingerie et l'enfant devint pensionnaire dans un lycée. Bien que Madame Follentin fût dans une situation réellement malheureuse, elle obtint une bourse et elle se priva de tout, économisant sur ses maigres mois, afin de pouvoir parer plus tard aux frais des examens et des diplômes. Jean se rendit compte des sacrifices que s'imposait sa mère et il travailla de son mieux, emportant tous les prix, compensant aux yeux de l'économe le mépris qu'inspirait sa situation de pauvre hère par des succès au grand concours. C'était un garçon très intelligent et malgré sa jeunesse déjà rassis. À voir la misérable existence que menait sa mère, enfermée du matin au soir dans une cage de verre, toussant la main devant la bouche sur des livres, demeurant timide et douce dans l'insolent brouhaha d'un magasin plein d'acheteurs, il comprit qu'il ne fallait compter sur aucune clémence du sort, sur aucune justice de la destinée. Il lui fallait sans tarder une place, qui allégea le pesant fardeau que supportait sa mère. Il demeura longtemps sans en découvrir, car son aspect chétif ne prévenait pas en sa faveur et sa jambe gauche boitait par suite d'un accident survenu au collège dans son enfance. Enfin, la malchance sembla tourner. Jean concourut pour une place d'employé dans un ministère et il fut admis avec les appointements de 1500 francs. Quand son fils lui annonça cette bonne nouvelle, Madame Follentin sourit doucement. « Te voilà ton maître, » dit-elle. « Tu n'as plus besoin de personne, mon pauvre garçon. Il était grand temps. » Et en effet, sa santé débile s'altérait de jour en jour. Un mois après, elle mourut des suites d'un gros rhume gagné dans la cage ventilée où elle demeurait, l'hiver comme l'été, assise. Jean resta seul. Ses autres parents étaient ou dispersés ou morts. Il ne les avait d'ailleurs pas connus. C'est tout au plus s'il se souvenait du nom d'une cousine actuellement en province, dans un monastère. Il se fit quelques camarades, quelques amis. Puis arriva le moment où les uns quittèrent Paris et où les autres se marièrent. Il n'eut pas le courage de nouer de nouvelles liaisons et, peu à peu, il s'abandonna et vécut seul. « C'est égal. La solitude est douloureuse, » pensait-il maintenant. Et il songea à ses anciens camarades. Comme le mariage brisait tout. On s'était tutoyé, on avait vécu de la même existence. L'on ne pouvait se passer les uns des autres et c'est à peine si l'on se saluait à présent lorsqu'on se rencontrait. L'ami marié est toujours un peu embarrassé car c'est lui qui a rompu les relations. Puis il s'imagine aussi qu'on raille la vie qu'il mène et enfin il est, de bonne foi, persuadé qu'il occupe dans le monde un rang plus honorable que celui d'un célibataire, se disait M. Follentin, qui se rappelait la gêne et un peu la morgue d'anciens camarades entrevus depuis leur mariage. Tout cela, c'est bien bête. Et il sourit. Car le souvenir de ses compagnons de jeunesse le ramenait forcément au temps où il les fréquentait. Il avait 22 ans alors, et tout l'amusait. Le théâtre lui apparaissait comme un lieu de délices, le café comme un enchantement, et Bullier, avec ses filles cabrant le torse au son des cymbales et chahutant le pied en l'air, l'allumait, car, dans son ardeur, il se les figurait déshabillés et voyait sous les pantalons et sous les jupes la chair se mouiller et se tendre. Tout un fumet de femmes montait dans des tourbillons de poussière et il restait là, ravi, enviant les gens en chapeau mou qui cavalcadaient en se tapant sur les cuisses. Lui boitait, était timide et n'avait pas d'argent. Ah, si ses appointements avaient été plus élevés! Dépourvu d'argent comme il l'était, ne pouvant prétendre à lever des filles dans un bal, il s'adressait aux affûts des corridors, aux malheureuses dont le gros ventre bombe au ras du trottoir. Il plongeait dans les couloirs, tâchant de distinguer la figure perdue dans l'ombre. Et la grossièreté de l'enluminure, l'horreur de l'âge, l'ignominie de la toilette et l'abjection de la chambre ne l'arrêtaient point. Ainsi que dans ses gargotes où son bel appétit lui faisait dévorer de basses viandes, sa faim charnelle lui permettait d'accepter les rebuts de l'amour. Il y avait même des soirs où, sans le sou, et par conséquent sans espoir de se satisfaire, Il traînait dans la rue de Bussy, dans la rue de l'Égout, dans la rue du Dragon, dans la rue Neuve-Guillemin, dans la rue Beurrière, pour se frotter à de la femme. Il était heureux d'une invite. Et quand il connaissait une de ses raccrocheuses, il causait avec elle, échangeait le bonsoir, puis il se retirait par discrétion, de peur d'effaroucher la pratique. Et il aspirait après la fin du mois, se promettant dès qu'il aurait touché son traitement des bonheurs rares. Le beau temps. Et dire que maintenant qu'il était un peu plus riche, maintenant qu'il pouvait goûter à de meilleures pâtures et s'épuiser sur des couches plus fraîches, il n'avait plus envie de rien. L'argent était arrivé trop tard, alors qu'aucun plaisir ne le séduisait. À force d'évoquer toute la séquelle de ses souvenirs, M. Follentin tomba dans une affreuse mélancolie. Il avait subi vaillamment, depuis des années, la solitude, mais ce soir-là, il s'avoua vaincu. Il regretta de ne pas s'être marié et il retourna contre lui les arguments qu'il débitait quand il prêchait le célibat pour les gens pauvres. Ah, eh bien quoi, les enfants, on les élèverait, on se serrerait un peu plus le ventre. Parbleu, je ferais comme les autres. Je m'attellerais à des copies, le soir, pour que ma femme fût mieux mise. Nous mangerions de la viande le matin seulement. Et de même que la plupart des petits ménages, nous nous contenterions au dîner d'une assiettée de soupe. Et qu'est-ce que toutes ces privations à côté de l'existence organisée, de la soirée passée entre son enfant et sa femme, de la nourriture peu abondante mais vraiment saine, du linge raccommodé, du linge blanchi et rapporté à des heures fixes. Trop tard. Plus de virilité. Le mariage est impossible. Décidément, j'ai raté ma vie. Allons, ce que j'ai de mieux à faire, soupira M. Follentin, c'est encore de me coucher et de dormir. Et, pendant qu'il ouvrait ses couvertures et disposait ses oreillers, des actions de grâce s'élevèrent dans son âme, célébrant les pacifiants bienfaits du secourable lit. Ni le lendemain, ni le surlendemain, la tristesse de M. Follentin ne se dissipa. Il se laissait aller à volo, incapable de réagir contre ce spleen qui l'écrasait. Mécaniquement, sous le ciel pluvieux, il se rendait à son bureau, le quittait, mangeait et se couchait à 9h pour recommencer, le jour suivant, une vie pareille. Peu à peu, il glissait à un alourdissement absolu d'esprit. Puis, il eut un beau matin un réveil. Il lui sembla qu'il sortait d'une léthargie. Le temps était clair et le soleil frappait les vitres damasquinées de givre. L'hiver reprenait, mais lumineux et sec. Monsieur Follentin se leva en murmurant « Fichtre sa pince !» Il se sentait tout ragaillardi. Bon, ce n'est pas tout cela. Il s'agirait de trouver un remède aux attaques d'hypocondrie, se dit-il. Après de longues délibérations, il se décida à ne plus vivre ainsi enfermé et à varier ses restaurants. Seulement, si ses résolutions étaient faciles à concevoir, elles étaient en revanche difficiles à mettre en pratique. Il demeurait rue des Saints-Pères et les restaurants manquaient. Le 6e arrondissement était impitoyable au célibat. Il fallait être ordonné prêtre pour trouver des ressources, des dîners spéciaux dans des tables d'hôtes réservées aux ecclésiastiques pour vivre dans ce lacis de rue qui enveloppe l'église de Saint-Sulpice. Or, la religion, point de mangeaille, à moins d'être riche et de pouvoir fréquenter des maisons huppées. « Si j'avais le courage de l'abandonner !» soupirait de temps à autre M. Follentin. Mais son bureau était là. Puis il y était né. Sa famille y avait constamment vécu. Tous ses souvenirs tenaient dans cet ancien coin tranquille, déjà défiguré par des percées de nouvelles rues, par de funèbres boulevards, rissolé l'été et glacé l'hiver, par de mornes avenues qui avaient américanisé l'aspect du quartier et détruit pour jamais son allure intime, sans lui avoir apporté en échange des avantages de confortable, de gaieté et de vie. « Il faudrait traverser l'eau pour dîner », se répétait M. Follentin. Mais un profond dégoût le saisissait dès qu'il franchissait la rive gauche. Puis il avait peine à marcher avec sa jambe qui clochait, et il abominait les omnibus. Enfin, l'idée de faire des étapes le soir pour chercher pâture l'horripila. Il préféra tâter de tous les marchands de vin, de tous les bouillons qu'il n'avait pas encore visités, dans les alentours de son domicile. Il y dîna quelques jours, et sa faim, déjà rabrouée par les graillonnants effluves de la pièce, se refusa à entamer des viandes insipides, encore affadies par les cataplasmes des chicorées et des épinards. Quelle tristesse dégageaient ces tables de poupées, ces immuables cartes, ces parts infinitésimales, ces bouchées de pain. Par dégoût des viandes cuites au four, il se rabattait sur les œufs. Il les réclamait sur le plat et très cuits. Généralement, on les lui apportait presque crus. Et il s'efforçait d'éponger avec de la mie de pain, de recueillir avec une petite cuillère le jaune qui se noyait dans des tas de glaire. C'était mauvais, c'était cher, et surtout c'était attristant. « En voilà assez, » se dit M. Follentin, « essayons d'autre chose. » Mais partout, il en était de même. Les inconvénients variaient en même temps que les râteliers. Il s'entêta. À force de chercher, je trouverai peut-être. Et il continua à rôder par les cabarets, par les crèmeries. Seulement, au lieu de se débiliter, sa lassitude s'accrut. Surtout quand, descendant de chez lui, il aspirait dans les escaliers l'odeur des potages. Il voyait des raies de lumière sous les portes. Il rencontrait des gens venant de la cave avec des bouteilles. Il entendait des pas affairés courir dans les pièces. Tout, jusqu'au parfum qui s'échappait de la loge de son concierge, assis, les coudes sur la table et la visière de sa casquette, ternie par la buée montant de sa jatte de soupe, avivait ses regrets. Et il se désespérait. Car à ses ennuis moraux se joignait maintenant le délabrement physique. À force de ne pas se nourrir, sa santé, déjà frêle, chavirait. Il se mit au fer, mais toutes les préparations martiales qu'il avala lui noircirent sans résultat appréciable les entrailles. Pour se réguiser l'appétit, M. Follentin essaya d'un excitant qui lui réussissait dans son enfance. Tous les deux jours, il se rendit au bain. Cet exercice lui plaisait surtout parce qu'ayant deux heures à tuer entre la sortie de son bureau et son repas, il évitait ainsi de rentrer chez lui, de demeurer tout botté, tout habillé, consultant sa pendule, attendant l'heure du dîner. Et les premières fois, ce furent des moments délicieux. Il se blottissait dans l'eau chaude, s'amusait à soulever avec ses doigts des tempêtes et à creuser des maelstroms. Dans la cabine, voilé d'une vapeur d'eau, il rêvassait et ses pensées s'opalisaient avec la buée, devenaient affables et diffuses. Au fond, tout était pour le mieux. Il s'embêtait. Eh, mon Dieu, chacun n'a-t-il pas ses ennuis? Il avait... dans tous les cas, éviter les plus douloureux, les plus poignants, ceux du mariage. « Il fallait que je fusse bien bas le soir où j'ai pleuré sur mon célibat, » se dit-il. « Voyez-vous cela, moi, qui aime tant à m'étendre, en chien de fusil, dans les draps, forcé de ne pas bouger, de subir le contact d'une femme à toutes les époques, de la contenter alors que je souhaiterais simplement de dormir. » Et encore... Si l'on ne procréait aucun enfant, si la femme était vraiment stérile ou bien adroite, il n'y aurait que demi-mal. Mais est-on jamais sûr de rien? Enfin, il faudrait au moins tomber sur une femme aimable, sur une bonne fille. Oui, va-t'en voir si elles viennent, Jean. Avec ma dévaine coutumière, j'aurais épousé une pimbèche, une petite chipie, qui m'aurait intarissablement reproché les gènes utérines survenus après ses couches. Non, il faut être juste. Chaque état a ses inquiétudes et ses tracas. Et puis, c'est une lâcheté lorsqu'on n'a pas de fortune que d'enfanter des mioches. C'est les vouer au mépris des autres quand ils seront grands. C'est les jeter dans une dégoûtante lutte sans défense et sans armes. C'est persécuter et châtier des innocents à qui l'on impose de recommencer la misérable vie de leur père. Ah, au moins, la génération des tristes Follentins s'éteindra avec moi. Et, consolé, Monsieur Follentin lapait sans se plaindre, une fois sorti du bain, l'eau de vaisselle de son bouillon et déchiquetait l'amadou mouillé de sa viande. Tant bien que mal, il atteignit la fin de l'hiver et la vie devint plus indulgente. L'intimité des intérieurs cessait et M. Follentin ne regretta plus si vivement les douillettes somnolences au coin du feu. Ses promenades le long des quais recommencèrent. Déjà, les arbres se dentelaient de petites feuilles jaunes. La Seine, réverbérant l'azur pommelé du ciel, coulait avec de grandes plaques bleues et blanches que coupaient, en les brouillant d'écume, les bateaux-mouches. Le décor environnant semblait requinqué. Monsieur Follentin adorait cette partie du quai comprise entre la rue du Bac et la rue Dauphine. Il choisissait un cigare dans le débit de tabac situé près de la rue de Beaune et il musait, à petits pas, allant un jour à gauche, fouillant les boîtes des parapets et un autre jour à droite, consultant les rayons, en plein vent, des livres en boutique. Il reconnaissait les bouquinistes qui, bavards et hâlés, se tenaient comme l'année précédente près de leurs boîtes. Il reconnaissait aussi les bibliomanes qui piétinaient, au dernier printemps, tout le long des parapets, et la vue de ces individus qu'il ne connaissait pas le charmait. Tous lui étaient sympathiques. Il devinait en eux de bons maniaques, de braves gens tranquilles, passant dans la vie sans bruit, et il les enviait. « Si j'étais comme eux, » songeait-il. Et déjà, il avait tenté de les imiter, de devenir bibliophile. Hélas, le goût des livres ne s'apprenait pas, et puis, en dehors des éditions épuisées que ses faibles ressources lui interdisaient d'acheter, M. Follentin n'avait guère de volume à se procurer. Il n'aimait ni les romans de cap et d'épée, ni les romans d'aventure. Il ne s'attachait qu'aux choses de la vie réelle. Aussi, sa bibliothèque était restreinte. 50 volumes en tout, qu'il savait par cœur. Et ce n'était pas l'un de ses moindres chagrins que cette disette de livres à lire. Et il repartait, examinait les magasins, essayait de percer la profondeur des boutiques d'un coup d'œil au travers des portes. Jamais il n'y voyait de chaland. Allons, le bon enfant disparaît. D'ailleurs, les centres se déplacent. Maintenant, tous les antiquaires, tous les vendeurs de livres de luxe végètent dans ce quartier et ils fuient dès que leur beau expire de l'autre côté du fleuve. Dans 10 ans d'ici, les brasseries et les cafés auront envahi tous les rez-de-chaussée du quai. Ah, décidément, Paris devient un Chicago sinistre. Et tout mélancolisé, M. Follentin se répétait « Profitons du temps qui nous reste avant la définitive invasion de la grande muflerie du Nouveau Monde. » Cette promenade écartait les pensées trop sombres, et il écoula ainsi l'été. Traînant le long de la Seine avant le dîner, et une fois sorti de table, s'attablant à la porte d'un café. La journée même, pendant cette saison, était moins lourde à vivre. En manche de chemise, dans sa pièce, il somnolait, entendant confusément les histoires de son collègue, se réveillant pour s'éventer avec un almanach, travaillant le moins possible et combinant des promenades. La pensée de s'étendre seul, par ces nuits d'orage où l'on sue comme dans une étuve, où l'on se retrouve dans des draps poissés, le réjouissait aussi. « Je plains les gens qui sont à deux », se disait-il, en roulant sur le lit, à la recherche d'une place plus fraîche. Et la destinée lui semblait, à ces moments-là, plus hospitalière, moins rétive. Bientôt, les chaleurs accablantes s'atténuèrent. Les longues journées s'écourtèrent, l'air fraîchit. Les ciels faisandés perdirent leur bleu, se peluchèrent comme de moisissures. L'automne revenait, ramenant les brouillards et les pluies. Monsieur Follentin prévit d'inexorables soirées, et effrayé, il dressa de nouveau ses plans. D'abord, il se résolut à rompre avec sa sauvagerie, à tâter des tables d'hôtes, à se lier avec des voisins d'assiette, à fréquenter même les théâtres. Il fut servi à souhait. Il rencontra un jour sur le seuil de son bureau un monsieur qu'il connaissait. Ils avaient pendant un an mangé côte à côte, se prêtant le journal, discutant sur les vertus des fers différents qu'ils avalaient, buvant pendant un mois ensemble de l'eau de goudron, émettant des pronostics sur les changements de temps, cherchant à eux deux des alliances diplomatiques pour la France. Leur relation s'était bornée là. Ils se donnaient une poignée de main, se tournaient le dos une fois sur le trottoir, et cependant, le départ de ce coreligionnaire avait attristé M. Follentin. Ce fut avec plaisir qu'il l'aperçut. « Tiens, M. Martinet, dit-il, comment va ? » Monsieur Follentin, bah, et comment vous portez-vous, depuis les temps fous que nous nous sommes vus? Ah, vous êtes un joli lâcheur, riposta Monsieur Follentin. Voyons, que diable êtes-vous devenu? Et ils avaient échangé leurs confidences. Monsieur Martinet était maintenant l'hôte assidu d'une table d'hôte et il en fit immédiatement un chimérique éloge. 90 à 100 francs par mois. C'est propre, bien tenu. On en a à sa faim et on se trouve en bonne compagnie. Vous devriez venir dîner là. » Monsieur Follentin eut peur d'être malhonnête et il suivit docilement son compagnon au travers des rues. « Nous y voici, montons. » Et Monsieur Martinet s'arrêta sur le palier devant une porte à tambour vert. Là sonnaient de grands bruits d'assiettes sur un bourdonnement ininterrompu de voix. Puis la porte s'ouvrit. Et en même temps qu'un violent ourvari, des gens en chapeau se précipitèrent dans l'escalier en battant la rampe avec leurs cannes. Monsieur Follentin, pris à la gorge, recula. Cette pièce était noyée dans une épaisse fumée de tabac. Monsieur Martinet entraîna son invité dans une autre pièce où la buée était peut-être plus intense encore. Et, çà et là, dans des chants de pipes bouchées, dans des éclats de rire, des corps passaient presque invisibles, devinés seulement par le déplacement de vapeur qu'ils opéraient. Monsieur Follentin resta là, ahuri, cherchant à tâtons une chaise. Une demi-heure s'écoula. Monsieur Follentin eût donné bien des choses pour n'avoir jamais mis le pied dans cet estaminet où l'on pouvait fumer, mais où l'on ne se nourrissait pas. De temps à autre, M. Martinet s'échappait et allait s'assurer que les sièges étaient toujours occupés. « Il y a deux messieurs qui en sautent au fromage, » dit-il d'un air satisfait. « J'ai retenu leur place. » Une autre demi-heure s'écoula. M. Follentin se demanda s'il ne ferait pas bien de se diriger vers l'escalier tandis que son compagnon guettait les tables. Enfin, M. Martinet revint, lui annonça le départ des deux fromages et ils pénétrèrent dans une troisième pièce où ils s'assirent, serrés comme des harengs dans une caque. Sur la nappe tiède, dans les éclaboussures de sauce, dans les mies de pain, on leur jeta des assiettes et l'on servit un bœuf coriace et résistant, des légumes fades, un rosbif dont les chairs élastiques pliaient sous le couteau, une salade et du dessert. Cette salle rappela à M. Follentin le réfectoire d'une pension, mais d'une pension mal tenue, où on laisse brailler à table. « Eh bien, que vous disais-je ? » affirmait M. Martinet. « C'est gai, n'est-ce pas ? Ici, c'est de la vraie viande. » M. Follentin ne soufflait mot. Autour de lui, les tables vacarmaient avec un bruit terrible. De même que dans le buffet d'une gare, il fallait mettre les bouchées doubles, avaler son vin en toute hâte. S'empiffrer de la charcuterie chez soi et boire de l'eau, tout, excepté de dîner ici, se dit-il. « Prenez-vous du café ? » demanda M. Martinet d'un ton aimable. « Non, merci, j'étouffe, je vais respirer un peu. » Mais M. Martinet n'était pas disposé à le quitter. Il le rejoignit sur le palier et lui saisit le bras. « Où me menez-vous ? » dit Follentin, découragé. « Eh bien, nous ne nous voyons pas assez souvent pour que je veuille que vous vous sépariez de moi avec une mauvaise impression, » fit M. Martinet d'un ton cordial. « À propos, comment allons-nous tuer la soirée ? » Si vous aimiez le théâtre, je vous proposerais d'aller à l'Opéra Comique. Nous avons le temps, dit-il en examinant sa montre. On joue ce soir Richard Cœur de Lion et le Pré au Clair. Hein ? Qu'en dites-vous ? Tout ce que vous voudrez. Après tout, pensa M. Follentin, peut-être arriverai-je à me distraire, et puis comment refuser la proposition de ce brave homme dont j'ai déjà froissé tous les enthousiasmes ? Richard commençait dans une salle vide. Monsieur Follentin éprouva pendant le premier acte une impression étrange. Les chanteurs n'avaient aucune voix et ils se bornaient à avancer des bouches rondes au-dessus de la rampe tandis que l'orchestre s'endormait, las d'épousseter la poussière de cette musique. Mon Dieu, que tout cela est donc vieux. Joli opéra comique, n'est-ce pas ? Fit M. Martinet en lui lançant un coup de coude. Le Pré au Clair, qui succédait à Richard, atterra M. Follentin. Jadis, il s'était pâmé aux airs connus. Maintenant, toutes ses romances lui semblaient troubadours et dessus de pendule, et les interprètes l'irritaient. Costumes, décors, tout était à l'avenant. On eût sifflé dans n'importe quelle ville de l'étranger et de la province, car nulle part on n'eût supporté un chanteur aussi ridicule et des cantatrices aussi baroques. M. Follentin souffrait réellement. Voilà que le Pré au Clair, dont il avait conservé un bon souvenir, s'effondrait aussi. « Tout fiche le camp », se dit-il, avec un gros soupir. Les conséquences de cette soirée furent salutaires. Au souvenir de cette fatigue, de cette gêne, M. Follentin s'estimait content de dîner où bon lui semblait et de demeurer, pendant toute une soirée, dans sa chambre. Il jugea que la solitude avait du bon, que ruminer ses souvenirs et se conter à soi-même des balivernes était encore préférable à la compagnie des gens dont on ne partageait ni les convictions ni les sympathies. Son désir de se rapprocher, de toucher le coude d'un voisin, cessa. Et une fois de plus, il se répéta cette désolante vérité que lorsque les anciens amis ont disparu, il faut se résoudre à n'en point chercher d'autres, à vivre à l'écart, à s'habituer à l'isolement. Il atteignit ainsi l'hiver, mais aux premières neiges, sa mélancolie reparut. Le bouillon où il stationnait depuis l'automne le lassa et il recommença à brouter au hasard, tantôt ici et tantôt là. Plusieurs fois, il franchit les ponts et tenta de nouveaux restaurants. Mais dans une bousculade, les garçons filaient, ne répondant pas aux appels, ou bien ils vous lançaient votre plat sur la table et fuyaient quand on leur réclamait du pain. La nourriture n'était pas supérieure à celle de la rive gauche et le service était arrogant et dérisoire. M. Follentin se le tint pour dit et il resta, désormais, dans son arrondissement, bien résolu à ne plus en démarrer. Que faire ? La semaine s'égouttait encore, mais c'était le dimanche qui lui pesait. Jadis, il badaudait dans des quartiers déserts. Il se plaisait à longer les ruelles oubliées, les rues provinciales et pauvres, à surprendre par les fenêtres des rez-de-chaussée les mystères des petits ménages. Mais aujourd'hui, les rues calmes et muettes étaient démolies, les passages curieux rasés. Impossible de regarder par les portes entrouvertes des vieilles bâtisses, d'apercevoir un bout de jardinet, une margelle de puits, un coin de banc. Tout avait disparu. Plus de feuillage, de massifs, plus d'arbres, mais d'interminables casernes s'étendant à perte de vue. Et M. Follentin subissait dans ce Paris nouveau une impression de malaise et d'angoisse. Aussi avait-il renoncé à se promener le dimanche dans tout ce luxe de mauvais goût qui envahissait jusqu'aux banlieues. D'ailleurs, les flânes dans Paris ne le tonifiaient plus comme autrefois. Il se trouvait encore plus chétif, plus petit, plus perdu, plus seul, au milieu de ces hautes maisons dont les vestibules sont vêtus de marbre et dont les insolentes loges de concierges arborent des allures de salon bourgeois. Tout à coup, un grand espoir bouleversa M. Follentin. Un matin, dans la rue de Grenelle, il avisa une nouvelle pâtisserie qui s'installait. Cette inscription flambait en lettres de cuivre sur les carreaux « Dîner pour la ville ». M. Follentin eut un éblouissement. Est-ce que ce rêve si longtemps caressé de se faire monter à dîner chez soi allait pouvoir enfin se réaliser ? « Mais certainement, monsieur, lui répondit une jeune dame enfouie dans un comptoir et dont le buste était entouré de Saint-Honoré et de Tarte. Rien n'est plus facile puisque vous logez à deux pas. Et à quelle heure désirez-vous qu'on vienne ? 6 heures, fit monsieur Follentin, tout palpitant. Parfaitement. Le front de monsieur Follentin s'assombrit. Maintenant, reprit-il en bredouillant un peu, « Voilà, je voudrais un potage, un plat de viande et un légume. Quel serait le prix ?» La dame parut s'absorber dans des réflexions, murmurant, les yeux au ciel, « Potage, viande, légumes... Vous ne prenez pas de vin ?»« Non, j'en ai chez moi. Eh bien, monsieur, dans ces conditions-là, ce serait 2 francs. » La figure de M. Follentin s'éclaira. « Soit, dit-il, c'est convenu. Et quand pourrons-nous commencer ?» « Mais quand il vous plaira, ce soir, si vous voulez. »« Ce soir même, madame !» Et il s'inclina, et fut salué par une courbette si profonde dans le comptoir que le nez de la dame faillit creuser les Saint-Honoré et percer les Tartes. Dans la rue, M. Follentin s'arrêta après quelques pas. « Elle est gentille, cette dame, se dit-il. Oh, ce n'est pas qu'elle soit jolie, mais elle a des yeux bien expressifs. Oh, pourvu qu'elle fasse de bonnes affaires !» Et, tout en reprenant sa trotte, il souhaita la prospérité de la pâtissière. Ensuite, il s'ingénia à parer au désordre du premier soir. Il commanda chez un épicier 6 litres de vin. Puis, quand il fut arrivé à son bureau, il établit une petite liste des denrées qu'il achèterait. Confiture, fromage, biscuits, sel, poivre, moutarde, vinaigre, huile... « Je ferai monter tous les jours le pain par mon concierge. »« Ah, sapristi, si ça peut réussir, je suis sauvé. » Il aspira après la fin de la journée. Sa hâte à jouir de son contentement, tout seul, retardait encore la marche des heures. Il consultait de temps à autre sa montre. Son collègue, qu'avait déjà stupéfié l'air extatique de M. Follentin rêvant à son intérieur, sourit. « Avouez qu'elle vous attend, » dit-il. « Mais qui ça, elle ?» interrogea M. Follentin très étonné. « Ah, farceur, vous êtes encore un chaud de la pince, vous. Tenez, messieurs, copiez cela, tout de suite. Il me faut ces 2 lettres pour la signature de ce soir. » Et le chef entra et disparut. « C'est absurde. Il y en a 4 pages serrées, » grogna M. Follentin. « Je n'aurai pas fini avant 5 heures. » Tant bien que mal, tout en maugréant, il termina sa tâche, puis il retourna chez lui par la voie la plus courte, les bras chargés de paquets, les poches bourrées de sacs. Il respira une fois enfermé, mit ses chaussons, donna un coup de serviette au peu de vaisselle qu'il possédait. « Ouf, » dit-il, en approchant la table du feu, « je suis prêt. » 6 heures tintèrent. Monsieur Follentin attendait le mitron avec impatience, et il avait un peu en lui de cette fièvre qui l'empêchait, dans sa jeunesse, de tenir en place quand un ami s'attardait, inexact au rendez-vous. Enfin, à 6h15, la sonnette carillonna et un galopin s'avança, entraîné, le nez en avant, par le poids d'une grande boîte en fer blanc, de la forme d'un seau. Monsieur Follentin aida à distribuer sur la table les assiettes qu'il découvrit lorsqu'il fut seul. Il y avait un bouillon au tapioca, un veau braisé, un chou-fleur à la sauce blanche. « Mais ce n'est pas mauvais !» se dit-il en goûtant à chacun de ses plats. Et il se gava de bon appétit, but un peu plus que de coutume, puis il tomba dans une douce rêverie en contemplant sa chambre. L'idée d'habiller les murs glacés de sa chambre s'implanta tout à coup en lui, tandis qu'il lampait un dernier verre. Son indécision cessait. Il était déterminé à dépenser les quelques sous qu'il entassait depuis des années dans ce but. Et il eut une soirée charmante, réglant d'avance la toilette de son réduit. « Je me lèverai demain de bonne heure, » conclut-il, « et j'irai tout d'abord faire un tour chez les marchands de nouveautés et les bric-à-brac. » Son désœuvrement prenait fin. Un nouvel intérêt se glissait en lui. Après ses emplettes et après de féroces discussions chez les débitants de bibelots et d'estampes, il demeura sans le sou. Toutes ses économies étaient épuisées. Mais, comme un enfant à qui l'on vient d'offrir de nouveaux jouets, M. Follentin examinait, remuait ses achats dans tous les sens. Il grimpait sur les chaises pour attacher les cadres et il disposait ses livres en un autre ordre. « L'on est bien chez soi », se disait-il. Et en effet, sa chambre n'était plus reconnaissable. Aussi, quel empressement à rentrer chez lui maintenant, à éclairer tout, à s'enfoncer dans son fauteuil. Le froid lui semblait parqué au dehors, repoussé par cette intimité de petits coins choyés, et la neige qui tombait, qui assoupissait tous les bruits de la rue, ajoutait encore à son bien-être. Dans le silence du soir, le dîner, les pieds devant le feu, tandis que les assiettes chauffaient devant la grille, près du vin dégourdi, étaient charmants. Et les ennuis du bureau, la tristesse du célibat s'envolaient dans cette pacifiante quiétude. Sans doute, 8 jours ne s'étaient pas écoulés et déjà le pâtissier se relâchait. L'invariable tapioca était plein de grumeaux et le bouillon était fabriqué par des procédés chimiques. La sauce des viandes puait l'aigre madère des restaurants. Tous les mets avaient un goût à part, un goût indéfinissable, tenant de la colle de pâte un peu piquée et du vinaigre éventé et chaud. Monsieur Follentin poivra vigoureusement sa viande et sinapisa ses sauces. « Bast, ça s'avale tout de même, » disait-il. « Et le tout, c'est de se faire à cette mangeaille. » Mais la mauvaise qualité des plats ne devait pas rester stationnaire, et peu à peu elle s'accéléra, encore aggravée par les constants retards du petit mitron. En dépit de sa résignation, le moment vint où certains plats lui donnèrent des nausées. Il tâtait maintenant de tous les godivots ratés, de toutes les pâtisseries brûlées ou gâtées par les cendres. Il pêchait de vieilles boulettes de tourte dans tous les plats. Enhardi par sa bienveillance, le pâtissier mettait de côté toute pudeur, toute vergogne, et lui dépêchait tous les résidus de sa cuisine. « L'empoisonneuse !» murmurait M. Follentin devant la boutique de la pâtissière, qu'il ne jugeait plus si gentille, et il regardait de côté, ne souhaitant plus du tout, à l'heure présente, la prospérité de ses affaires. Il eut recours aux œufs durs. Il en achetait chaque jour, redoutant pour le soir un dîner impossible. Et quotidiennement, il se bourra de salade, mais les œufs putridaient. La fruitière lui vendant en sa qualité d'homme qui ne s'y connaissait pas les œufs les plus avariés de sa boutique. Tâchons d'atteindre le printemps. se disait M. Follentin pour se remonter. Mais, de semaine en semaine, son énergie se désarmait, en même temps que son corps, déplorablement nourri, criait famine. Sa gaieté s'effondra, son intérieur se rembrunit. Le cortège des anciennes détresses cerna de nouveau son existence désœuvrée. Si j'avais une passion quelconque, si j'aimais les femmes, le bureau, si j'aimais le café, le domino, les cartes, je pourrais bouffer au dehors, ruminait-il, car je ne resterais jamais chez moi. Mais, hélas, rien ne me divertit, rien ne m'intéresse, et puis mon estomac se détraque. Ah, ce n'est pas pour dire, mais les gens qui ont dans leur poche de quoi s'alimenter et qui ne peuvent cependant manger, faute d'appétit, sont tout aussi à plaindre que les malheureux qui n'ont pas le sou pour apaiser leur faim. Un soir qu'il chipotait des œufs qui sentaient la vesse, le concierge lui présenta une lettre de faire-part ainsi conçue. « Monsieur, les religieuses de la compagnie de Sainte Agathe vous supplient très humblement de recommander à Dieu dans vos prières et au saint sacrifice de la messe l'âme de leur chère sœur Ursule Aurélie Boujard, religieuse de cœur, décédée le 7 septembre 1880, dans la 62e année de son âge et la 35e de sa profession religieuse, munie des sacrements de notre Sainte Mère l'Église. De profundis. Doux cœur de Marie, soyez mon salut. 300 jours d'indulgence. » C'était une cousine à lui qu'il avait autrefois aperçue dans son enfance. Jamais depuis 20 ans il n'avait songé à elle et la mort de cette femme lui porta cependant un grand coup. Elle était sa dernière parente et il se crut encore plus esselé depuis qu'elle était décédée, dans le fond d'une province. Il envia sa vie, calme et muette, et il regretta la foi qu'il avait perdue. Quelle occupation que la prière, quel passe-temps que la confession, quel débouché que les pratiques d'un culte. Le soir, on va à l'église, on s'abîme dans la contemplation, et les misères de la vie sont de peu. Puis les dimanches s'égouttent dans la longueur des offices, dans l'alanguissement des cantiques et des vêpres, car le spleen n'a pas de prise sur les âmes pieuses. Oui, mais pourquoi la religion consolatrice n'est-elle faite que pour les pauvres d'esprit? Pourquoi l'Église a-t-elle voulu ériger en dogme les croyances les plus absurdes? Je ne puis cependant admettre ni la virginité d'une accouchée, ni la divinité d'un comestible qu'on prépare chez un fabricant de pâtes, se disait-il. Enfin, l'intolérance du clergé le révoltait. Et pourtant, la religion pourrait seule panser la plaie qui me tire. C'est égal, on a tort de démontrer aux fidèles l'inanité de leurs adorations, car ceux-là sont heureux qui acceptent comme une épreuve passagère toutes les traverses, toutes les souffrances, toutes les afflictions de la vie présente. 2 jours après, il reçut en plein crâne une nouvelle douche. Pour faire diversion au dîner composé de salades et de desserts, il retourna dans un restaurant. Il n'y avait personne, mais le service était lent et le vin fleurait la benzine. La porte s'ouvrit. Un soufflet lui éventa le dos. Il entendit un grand froufrou de jupe et sa table se couvrit d'ombre. Une femme était devant lui qui dérangeait la chaise sur les barreaux de laquelle il appuyait ses pieds. Elle s'assit et posa sa voilette et ses gants près de son verre. « Que le diable l'emporte, grommela-t-il, elle n'a que l'embarras du choix. Toutes les tables sont vides et elle vient juste s'installer à la mienne. » Machinalement, il leva les yeux qu'il tenait baissés sur son assiette et il ne put s'empêcher d'inspecter sa voisine. Elle avait une figure de petit singe, une margoulette fripée, avec une bouche un peu grande marchant sous un nez retroussé et de toutes petites moustaches noires au bout des lèvres. Malgré ses airs folichons, elle lui sembla cependant polie et réservée. Elle lui dardait de temps à autre un coup d'œil et d'une voix très douce, le priait de lui passer la carafe ou le pain. En dépit de sa timidité, M. Follentin dut répondre à quelques questions qu'elle lui lança. Peu à peu, la conversation s'était engagée et, au dessert, il déplorait, ne sachant trop quoi dire, l'aigre bise qui sifflait au dehors en leur glaçant les jambes. « C'est des temps où il ferait bon de ne pas coucher seul, » fit la femme d'un ton rêveur. Cette réflexion abasourdit M. Follentin, qui ne crut pas devoir répondre. « N'est-ce pas, monsieur ? » reprit-elle. « Oh, mon Dieu, mademoiselle !» Et, comme un poltron qui jette ses armes pour ne pas engager une lutte avec son adversaire, M. Follentin avoua sa continence, son peu de besoin, son désir de tranquillité charnelle. « Avec ça, » dit-elle, en le regardant bien dans les yeux. Il se troubla, d'autant que le corsage qu'elle avançait exhalait un arôme de New Moon Hay et d'ambre. « Je n'ai plus 20 ans, et ma foi, je n'ai plus de prétention, si j'en ai jamais eu. Non, ce n'est plus de mon âge. » Et il désigna sa tête chauve, son teint plombé, ses vêtements qui n'appartenaient plus à aucune mode. Oh, « laissez donc, vous voulez rire, vous vous faites plus vieux que vous n'êtes. » Et elle avait ajouté qu'elle n'aimait pas les jeunes gens, qu'elle préférait les hommes mûrs, parce que ceux-là savent se conduire avec une femme. « sans doute, » balbutia M. Follentin, qui demanda l'addition. La femme ne tira pas son porte-monnaie, et il comprit qu'il fallait s'exécuter. Il solda au garçon railleur le prix des deux dîners et il s'apprêtait à saluer la femme sur le seuil de la porte lorsqu'elle lui prit tranquillement le bras. « Tu m'emmènes ?» dit monsieur. Il chercha des échappatoires, des excuses pour éviter ce mauvais pas, mais il s'embrouillait, il faiblissait sous les yeux de cette femme dont la parfumerie lui serrait les tempes. « Je ne puis, » finit-il par répondre. « On n'amène pas de femme dans ma maison. Alors venez chez moi. » Et elle se pressa contre lui, jacassa et allégua qu'elle avait un bon feu dans sa chambre. Puis, voyant la morne attitude de M. Follentin, elle soupira. « Alors je ne vous plais pas ?»« Oh, mais si, madame, mais si. Seulement on peut trouver une femme charmante et ne point... » Elle se mit à rire. « Est-il drôle ? » dit-elle. Et elle l'embrassa. M. Follentin eut honte de ce baiser en pleine rue. Il eut la perception du grotesque que dégageait un vieil homme boiteux, choyé publiquement par une fille. Il allongea les jambes, voulant se soustraire à ses caresses et craignant en même temps, s'il essayait de fuir, une scène ridicule qui ameuterait le monde. « C'est ici, » dit-elle, et elle le poussa légèrement, marchant derrière lui, lui barrant la retraite. Il monta jusqu'à un troisième et, contrairement aux affirmations de cette femme, il ne vit aucun feu allumé chez elle. Il regarda, très penaud, la chambre dont les murs semblaient trembler à la lueur vacillante d'une bougie. Une chambre aux meubles couverts de laine bleue et aux divans tapissés d'algériennes. Une bottine crottée traînait sous une chaise et une pincette de cuisine lui faisait vis-à-vis sous une table. « Mets-toi donc à ton aise, » fit la femme, et malgré son refus de se dévêtir, elle saisit les manches de son pardessus, le força à s'asseoir sur un canapé et sauta sur ses genoux. « Dis donc, chérie, qu'est-ce que tu vas me donner pour mes petits gants ?» Monsieur Follentin sortit péniblement une pièce de 100 sous de sa poche et elle la fit prestement disparaître. « Voyons, tu peux bien m'en donner une autre. Je me déshabillerai, tu verras comme je serai gentille. » M. Follentin céda, tout en déclarant qu'il préférait qu'elle ne fût pas nue, et alors elle l'embrassa si habilement qu'une bouffée de jeunesse lui revint, qu'il oublia ses résolutions et perdit la tête. Puis... À un moment, comme il tardait tout en s'empressant, « Ne t'occupe pas de moi, » dit-elle. « Allez, ne t'occupe pas de moi, fais ton affaire. » Monsieur Follentin descendit de chez cette fille, profondément écœurée, et, tout en s'acheminant vers son domicile, il embrassa d'un coup d'œil l'horizon désolé de la vie. Il comprit l'inutilité des changements de route, la stérilité des élans et des efforts. Il faut se laisser aller à volo. Schopenhauer a raison, se dit-il. La vie de l'homme oscille comme un pendule entre la douleur et l'ennui. Aussi n'est-ce point la peine de tenter d'accélérer ou de retarder la marche du balancier. Il n'y a qu'à se croiser les bras et à tâcher de dormir. Mal m'en a pris d'avoir voulu renouveler les actes du temps passé, d'avoir voulu aller au théâtre, fumer un bon cigare, avaler des fortifiants et visiter une femme. Mal m'en a pris de quitter un mauvais restaurant pour en parcourir de non moins mauvais, et tout cela pour échouer dans les sales vols au vent d'un pâtissier. Tout en raisonnant de la sorte, il était arrivé devant sa maison. « Tiens, je n'ai pas d'allumette, » se dit-il, en fouillant ses poches dans l'escalier. Il pénétra dans sa chambre, un souffle froid lui glaça la face, et, tout en s'avançant dans le noir, il soupira. « Le plus simple est encore de rentrer à la vieille gargote, de retourner demain à l'affreux bercail. Allons, décidément, le mieux n'existe pas pour les gens sans le sou. Seul le pire arrive. »
À volo, une nouvelle de Joris Carl Huysmans, lue par Jean-Charles Dizazzo. Accompagnement musical, Alice Beauté. À volo est publié dans la bibliothèque de la Pléiade. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son et mixage, Manuel Couturier, Lidwin Caron. Assistante à la réalisation, Romane Chiban. Réalisation, Cédric Ossire.